La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre Sauveur. Bienvenue à vous, bienvenue à la famille Leclerc qui est avec nous ce matin. Pas seulement la famille Leclerc d'ailleurs, il y a deux familles ici qui accompagnent un petit enfant qui va recevoir le baptême ce matin avec nous. Nous sommes heureux de vous accueillir ici et de vous faire place dans ce lieu de prière que pour certains vous ne connaissez peut-être pas encore, mais en tout cas sachez que vous êtes ici dans votre maison ce matin et chaque fois que vous aurez besoin d'y retrouver tout ce qu'une parole biblique peut vous apporter. Je vous invite à la prière. Père, nous sommes rassemblés ce matin dans cette église avec le désir de te louer, de te rendre un culte reconnaissant. Permets que nous soyons une communauté de prière et de joie autour de l'enfant qui va recevoir le signe de ta grâce. Que chacun ici soit compté au nombre des témoins de ton amour pour ce monde et que notre foi fasse grandir notre amour du prochain. Donne-nous ton Esprit Saint, Seigneur, ce matin. Et nous nous réunissons dans la communion fraternelle avec le spontané que vous trouvez au début des psautiers. Vous avez reçu un psautier et un livre de cantiques. Et au début des psautiers, vous avez toute la liturgie avec les réponses. Nous louons Dieu avec le psaume de David, le psaume 103. Je veux remercier le Seigneur, je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et qui guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe, il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Le Seigneur rend des jugements justes, il fait justice aux gens sans défense. Il a découvert ses projets à Moïse et ses grandes actions au peuple d'Israël. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié, il est patient et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches, sa colère ne dure pas toujours. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le mériterions sans doute. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre, comme le soleil levant est loin du soleil couchant. Il met nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient de ce qu'est... Il se souvient que nous sommes seulement un peu de poussière. Et la vie humaine est comme l'herbe. Elle ressemble à la fleur des champs, elle commence à fleurir, puis, le souffle du vent, elle disparaît. On ne sait même plus où elle était. Mais l'amour du Seigneur dure depuis toujours et durera toujours pour ceux qui le respectent. Il reste sans cesse fidèle pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance, il pense à faire ce qu'il commande. Le Seigneur a son siège dans le ciel, son pouvoir royal s'étend sur le monde entier. Remerciez le Seigneur, vous, ses anges puissants, vous accomplissez ses ordres et vous obéissez dès que vous entendez sa voix. Remerciez le Seigneur, vous, l'armée de ses serviteurs qui faites ce qu'il désire, vous tous qui a créé. Remerciez le Seigneur partout où il est roi. Et moi, à mon tour, je dirai merci au Seigneur. Nous chantons notre louange avec le psaume 8 dans les psautiers. Le psaume 8, les strophes 1, 2, 3 et 4. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons ce qu'il nous est demandé d'être et comment il nous est demandé de nous comporter. Dans l'Évangile, il est écrit : Jésus appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : Amen, je vous le dis. Si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même, alors il accueille Dieu. Nous nous présentons devant le Seigneur tel que nous sommes. Seigneur, nous te présentons nos manquements, nos colères et nos jugements. Reprends, Seigneur, reprends et sauve. Nous te présentons nos manques de foi en toi et en nos frères les hommes. Reprends, Seigneur, reprends et sauve. Seigneur, nous te présentons nos incompréhensions, nos incapacités à aimer, Reprends, Seigneur, reprends tout cela et sauve-le. Car tu es le sauveur de tout homme qui se tourne vers toi. Tu es lumière dans la ténèbre. Tu te fais frère pour nous, présence humaine auprès de nous, pour témoigner de ta grâce. Seigneur, convertis-nous à ta grâce. Amen. Le Seigneur redit sa grâce, il nous annonce son pardon. À travers les paroles du prophète Ésaïe, il nous transmet cette parole de grâce. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, pardon, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel. Et je te garde ma miséricorde.
Raphaël et Sophie, vous avez demandé que votre enfant reçoive le baptême. Avec les parrains et marraines, je vais vous demander de me rejoindre ici. Veuillez vous approcher. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie et affirme sa foi. Venez par ici, de chaque côté. Je crois en Dieu, je crois qu'il nous a aimés le premier. Avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, il nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés, car nous sommes son espérance et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit pour nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore et toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu en Jésus-Christ nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira tous les calices. Il combattra tous les combats jusqu'à la fin et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Amen. Je vous invite à chanter. Oui. voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Et nous allons maintenant rappeler l'instruction du baptême. Sophie et Raphaël, votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui donne le souffle de vie. Il va être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour lui. Il l'appelle à son service. Il va être baptisé au nom du Saint-Esprit qui fera naître en lui la foi, l'espérance et l'amour. C'est ce que nous souhaitons. Il y a de l'eau ici, et cette eau est tout à fait ordinaire. Ce n'est pas de l'eau magique. C'est l'eau qui aurait pu servir à donner à boire à cet enfant, à laver ses mains, à faire pousser une belle plante. Mais avec la parole de Dieu, cette eau devient l'eau du sacrement du baptême, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Signe visible d'une grâce invisible. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. En effet, Dieu nous a aimés le premier. Je vous invite tous à vous lever pour être témoins du baptême. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui. Il nous connaît chacun par notre nom. Quel prénom avez-vous choisi pour le petit qui est ici ?
Léopold.
Léopold. Je vais maintenant procéder au baptême avant toute autre chose, sans aucune condition. Vous allez le pencher. Léopold, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Voilà, vous pouvez le redresser. Léopold, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui et la vie éternelle. Sois béni. Je vais maintenant demander aux parents et parrains et marraines de s'engager pour cet enfant avant que nous le fassions nous-mêmes. Je vous invite à vous asseoir pour entendre ces engagements.
Léopold, tu nous combles déjà d'un immense bonheur. Ce bonheur, nous souhaitons qu'il soit partagé avec les autres, par ta joie, ta bienveillance et ton écoute. Nous veillerons à ce que tu grandisses au sein de notre famille avec ces valeurs si précieuses. Sache que je te donnerai tout mon amour et toute mon attention pour que tu t'épanouisses pleinement dans ta vie.
Léopold, je fais le vœu que ce baptême célébré aujourd'hui avec toute ta famille soit un premier engagement fort dans ta vie de croyant. Je fais le vœu que l'éducation spirituelle que tu recevras ici te guide et t'éclaire dans ta vie, celle d'une personne curieuse de l'autre, à l'écoute et tolérante. Je fais enfin le vœu que ta vie soit remplie d'amour, celui de Dieu, de tes proches, mais également celui que tu donneras aux autres chaque jour de ta vie.
Léopold, quelle a été ma joie lorsque tes parents m'ont annoncé qu'ils avaient choisi que je t'accompagne dans ta vie en tant que marraine. Sophie, à travers nos 20 ans d'amitié, nous avons acquis et nous partageons des valeurs que je veillerai à transmettre à Léopold. Raphaël, je te remercie profondément d'avoir accepté de me faire confiance pour cette magnifique responsabilité. Et sachez tous les trois que je m'appliquerai à guider Léopold du mieux que je peux et durant chaque moment de sa vie en honorant ses valeurs.
C'est ce qui nous entoure, qui nous fait changer, ou plutôt évoluer. Et aujourd'hui, Léopold écrit à lui seul les premiers chapitres d'un nouveau chapitre, les premières lignes, pardon, d'un nouveau chapitre de nos vies à tous. On dit souvent que le but d'un voyage réside dans le fait de se perdre. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être considérer la religion comme une sorte de guide que l'on décide de suivre, ou pas d'ailleurs. Avoir un guide, c'est avoir le choix. On peut l'écouter, on peut le lire, prendre ses paroles comme des vérités, ou on peut aussi de temps en temps faire un léger pas de côté et décider d'aller jeter un petit coup d'œil par soi-même, voir de ses propres yeux, écouter de ses propres oreilles, se faire sa propre expérience et voire même faire ses propres erreurs. Marcher avec un guide permet de faire des détours avec la sécurité de savoir qu'on l'a toujours bien au chaud dans la poche. Je pense que mon rôle de parrain, comme celui de tous ceux qui l'entourent, qui entourent Léopold, et simplement de lui dire aujourd'hui, voici tes guides. Aujourd'hui, on fait le choix de t'offrir un petit truc en plus. Une famille élargie, un brin de spiritualité, voire même, pourquoi pas, de magie. Mais soyons-en tous certains, dès aujourd'hui, il en fera bien ce qu'il en veut. Regarde ta grand-mère Léopold. Née catholique, mariée protestante, pour finir mère juive, t'as le champ libre. La croix huguenote n'est pas religieuse à proprement parler. Elle est un symbole d'appartenance, de lien et de fierté. Et c'est exactement de cette manière que moi j'ai décidé de marcher sur cette route. Tu emprunteras celle qui te semble la plus lumineuse, ton guide dans la poche. Léopold, merci d'être notre cadeau à tous. J'espère que tu apprécieras le nôtre.
Merci.
Pas la peine de pleurer.
Merci à vous tous pour ces engagements et je vais maintenant vous exhorter, vous tous, frères et sœurs, car c'est un enfant que nous accueillons dans notre communauté, que nous accueillons pour prier pour lui et pour sa famille, pour faire en sorte qu'il ait une vie spirituelle qui, justement, puisse le guider vers de beaux chemins. Léopold, je vais t'emmener avec moi. Et dans la confiance, tu vas aller te présenter à tous ces gens qui sont là et qui sont maintenant ta nouvelle famille spirituelle. Alors, on y va. Frères et sœurs, voici Léopold. Il est votre petit frère désormais dans la foi. Il fait partie de votre famille spirituelle. Vous prierez pour lui et pour sa famille, pour qu'il découvre dans sa vie tout ce que le Seigneur peut lui apporter. Si jamais un jour il vient à se séparer de cette communauté ou de l'Église tout entière, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Ce sera ainsi pour lui le signe de l'amour inconditionnel de Dieu pour lui. Et nous serons le signe visible de cet amour-là. Voilà, Léopold, ta grande famille, elle est là aussi. Mais ta maman et ton papa sont là quand même. Voilà. Je vous invite à la prière. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Léopold qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour lui et pour sa famille et nous te remercions pour notre propre baptême s'il a eu lieu et pour notre désir d'être près de toi. Ce désir que tu as fait grandir en nous. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 204. Merci infiniment, merci beaucoup à vous. Pendant le cantique, vous pouvez peut-être remplir le registre. Je vous invite à vous asseoir et nous allons maintenant pouvoir méditer un passage de la Bible dans l'évangile de Marc au chapitre 7 à partir du verset 20. Jésus est en train de parler de la tradition et de tout ce que cela comporte de droit à la transgression. Il est aussi en train de parler de ce qui est pur et de ce qui est impur. Et voilà ce qu'il dit. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la ruse, le dérèglement, les regards envieux, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Il était évidemment en train de faire référence à toutes ces notions de pureté et d'impureté qui font qu'on a plutôt tendance à croire que c'est l'inverse. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Or, une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui
et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syrophénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia, et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus il publiait la nouvelle. Ils étaient dans un étonnement extraordinaire et disaient « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Je vous invite à chanter ensemble le cantique 150 « À toi la gloire ». Je vous invite à vous asseoir et nous prions ensemble. Seigneur, éclaire-nous au moment où nous allons parler de ces témoignages anciens laissés par d'autres croyants avant nous. Permets que nous soyons capables d'y voir ta parole pour nous, une parole créatrice dans nos vies, une parole de vie. Amen. Que se passe-t-il entre le moment où Jésus explique à ses disciples ce que c'est que l'impureté et que c'est ce qui entre dans le corps de l'homme qu'il faut regarder en effet, mais que ce n'est pas cela qui souille le plus l'homme, mais ce qui en sort, c'est-à-dire ce qui vient de notre propre volonté, ce que nous voulons déverser à l'extérieur. Entre ce moment-là et le moment où Jésus dit à un sourd muet « Ouvre-toi », que se passe-t-il entre les deux moments? Entre ces deux moments va se produire une rencontre, improbable, non souhaitée par Jésus, mais qui va le transformer durablement. Qui rencontre qui à ce moment-là? On nous parle d'une femme qui est grecque, d'origine syrophénicienne. Tant de précisions de la part de l'auteur est le signe que l'origine de cette femme fait problème. En fait, c'est une païenne. Aux yeux de Jésus, elle n'est pas de son peuple. Elle n'adore sans doute pas le même Dieu, ce Dieu d'Israël, et elle n'observe pas tous les rites de la tradition juive, bien sûr. Comme la rencontre a lieu dans le territoire de Tyr, on pourrait penser que Jésus sait à quoi il s'attend, puisqu'il est en territoire païen. Mais alors qu'il vient de ce territoire païen pour se cacher, d'une part des foules qui le pressent de tous côtés pour obtenir des guérisons, et d'autre part des pharisiens qui le questionnent sur ses pratiques peu orthodoxes, il va quand même camper sur ses positions qui montrent qu'il n'a pas encore lui-même mis en pratique ce qu'il exprimait quelques instants plus tôt à propos du pur et de l'impur. De la tradition et de la loi de Moïse. À cette femme païenne qui le supplie pour obtenir la guérison de sa fille, Jésus va répondre « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » Particulièrement désagréable ce Jésus, vous ne trouvez pas? Il y a quelque chose d'inhumain dans cette façon de traiter cette femme qui est en plein désespoir. Elle inspire plus de la pitié que de la colère, et il lui parle ainsi. Que dit Jésus? De quoi parle-t-il avec ses chiens et ses enfants? Il semble bien que les païens aient été assez couramment associés à cet animal impur qu'est le chien. Lui qui mange les restes, les carcasses, il est une des figures de l'impur. À notre époque, où l'on essaierait presque de faire de nos chiens domestiques des véganes, tant on s'occupe de leur alimentation, il nous semble un peu surprenant de voir que cet animal est pris comme un animal extrêmement impur. Mais à l'époque de Jésus, le chien n'a pas bonne réputation. Il est laissé dans les rues. Jésus est donc en train de traiter cette femme suppliante de chienne, ni plus ni moins. Il lui fait la morale parce qu'elle ose demander quelque chose qui, de droit, revient aux enfants. Et ces enfants, ce sont les fils d'Israël, les bénéficiaires de la promesse de Dieu, les membres du peuple élu. Jésus se voit donc comme le Messie d'Israël qui apporte le salut aux enfants d'Israël, mais pas aux païens. Cette attitude a de quoi nous étonner quand on sait que les propres disciples de Jésus viennent d'être pris en flagrant délit de transgression de la loi de Moïse en mangeant sans d'abord procéder aux ablutions rituelles. Jésus les défendait au nom d'une liberté par rapport à la tradition. N'est-il pas déjà passé du côté du paganisme aux yeux des siens? Pourquoi n'accueille-t-il pas mieux cette femme après tout? Pourtant, devant elle, devant cette femme qui lui parle d'une chose bien plus importante et sans doute plus vitale que ces questions d'enfants d'Israël et de pain, il s'agit de la santé de sa fille, peut-être de sa vie, il remet au centre du dialogue ce qui les sépare. Il fait partie du peuple d'Israël et elle non. Il est venu sauver les enfants d'Israël et pas les païens. Lui qui disait « c'est du dedans du cœur des gens que sortent les raisonnements mauvais », il devrait écouter ses propres paroles. Comment peut-il rudoyer cette femme qui demande le salut pour sa fille? Elle ne veut rien pour elle, rien pour elle-même. Et c'est là le drame qui se joue. Eugène Drewermann, dans son livre « L'évangile des femmes », écrit à propos de la supplication de la syrophénicienne. Saint-Exupéry écrivait un jour cette parole superbe et orgueilleuse « Rien n'est intolérable. Pour soi-même, on peut tenir. Sa souffrance, on peut la supporter. Il ne s'agit que de soi. Elle peut nous terrasser, mais rien n'en dépend. Rien de ce qui nous arrive n'est intolérable. » Mais la souffrance venant accabler l'autre, celui qui nous est proche, celui dont on est responsable et qu'on ne peut pourtant pas aider, la vision de celui qu'on aime acculé à l'abîme ou en train de se précipiter dans le malheur, voilà l'intolérable. Il n'existe pas de pire tourment. Extraordinaire intuition de l'écrivain et de l'analyste, qui éclaire pour nous la situation de cette femme. Comme la suppliante, sculptée par Camille Claudel, la syrophénicienne est aux pieds de Jésus à le supplier. Et bien qu'il la traite comme un chien, elle va avoir ce courage de lui dire « Seigneur, les chiens sous la table mangent bien les miettes des enfants. » Le courage de l'humiliation, prête à tout pour obtenir la guérison de sa fille, cette femme va aller jusqu'à accepter qu'on la traite ainsi. Elle va comprendre le point de vue de celui qui la rejette afin qu'il la tolère dans son monde, qu'il lui laisse une place, même celle du chien, même sous la table. Elle veut bien être un chien, elle veut bien comprendre que le Messie ne soit pas venu pour elle, la païenne. Elle, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la vie de sa fille, possédée par un esprit impur. On ne sait pas ce que recouvre cette réalité. On ne sait pas de quoi souffre la petite. Mais chez les païens aussi, le mal est impur et il fait souffrir les gens. Alors elle essaie encore. Et si il consentait à lui donner ne serait-ce que les miettes des élus, abandonner tout orgueil pour le salut, accepter tout outrage pourvu que l'enfant qu'on aime soit sauvé. C'est cet amour incommensurable qui va toucher Jésus. Comme si lui et elle étaient en communion d'amour. Lui parce que depuis son baptême, il se sait aimé de Dieu de cette façon inconditionnelle. Et elle parce qu'elle est mère et qu'elle aime aussi, ainsi. Au bout du compte, Jésus ne fera aucun geste pour guérir la jeune fille, il n'en aura pas besoin. Il constatera seulement que le salut sans aucun doute est venu couronner cette supplique sincère. Mais de cet étrange échange inattendu, il en ressortira profondément changé, converti à l'amour de Dieu pour tous les hommes, conscient que sa vocation n'est pas de s'adresser seulement au peuple élu, mais à tous les hommes qui se présentent à lui. Jésus n'est plus le sauveur d'un peuple, mais d'une humanité meurtrie et qui soupire après le salut. Qu'est-ce qui permet de dire que le récit de la Syrophénicienne raconte une conversion de Jésus? Eh bien, après cette rencontre marquante, alors qu'il traverse le territoire de la Décapole, on va lui amener un sourd qui a de la difficulté à parler. Et il va le guérir en disant « Ephphatha, ouvre-toi ». Premièrement, ce n'est plus une grecque, une syrophénicienne, une païenne qui lui amène une personne à sauver, mais on lui amène quelqu'un. On lui amène. L'origine des suppliants n'a plus d'importance, c'est simplement « on » dans le texte. L'origine n'a plus d'importance. Deuxièmement, on lui amène un sourd qui a du mal à parler. C'est parce qu'il n'entend pas qu'il ne peut pas parler. C'est classique, me direz-vous, c'est même médical ou anatomique. Mais de quoi parle-t-on vraiment dans ce récit de miracle de sourd-muet? N'est-ce pas la surdité dont Jésus a fait preuve aux appels de la femme syrophénicienne qui est ici montrée comme un mal à guérir? Ce récit de miracle tombe à point nommé juste après cette expérience d'ouverture du Christ à la syrophénicienne. N'est-ce pas parce qu'il n'entendait pas le cri de cette mère qu'il ne pouvait pas annoncer le salut de Dieu avec le même amour? N'est-ce pas le repli sur soi qui a engendré chez Jésus la dureté et le manque de compassion dont il a fait preuve à son égard? La tradition dans laquelle il croit l'a empêché de comprendre l'amour infini de Dieu. L'histoire du sourd-muet racontée juste après la rencontre avec la syrophénicienne est comme un miroir de la fermeture de Jésus lui-même aux supplications des païens. N'est-ce pas donc de la conversion de Jésus dont il est question ici? Ce que l'Évangile construit dans ce passage qui questionne la tradition, l'identité et l'origine, c'est véritablement l'universalisme du message de Jésus. Défiant toutes les clôtures, toutes les frontières, toutes les certitudes identitaires, l'évangéliste présente la rencontre de Jésus avec cette femme courageuse comme un moment de bascule dans son ministère et comme une leçon de vie pour tout croyant. Si Jésus a dû se laisser convertir, alors pourquoi pas nous? Pourquoi pas tous les croyants? Aujourd'hui, nous avons baptisé un petit enfant qui, heureusement, n'a besoin d'être sauvé d'aucun démon impur. Ce tout petit a reçu le baptême, le signe visible de l'amour inconditionnel du Père. La figure paternelle de la religion chrétienne a parfois de quoi agacer, tant elle a permis à beaucoup de se comporter en paternaliste ou en misogyne à l'égard des femmes. Pourtant, cette parole de Dieu, lors du baptême de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection », est illustré par une figure maternelle qui dépasse les traditions, la religion ou l'origine en les poussant à leurs limites. Que nous importe de savoir de quel pays elle est, quelle langue elle parle et si elle est autorisée à se jeter aux pieds d'un Israélite? Elle, l'impure, puisqu'elle est une mère qui implore pour le salut de sa fille. Le texte biblique nous ramène à un existentiel, à quelque chose d'essentiel pour l'être humain. Tout enfant qui reçoit le baptême au nom de ce père-là, celui qui aime ainsi, le reçoit au nom aussi de cette mère-là. Car c'est le même amour inconditionnel qui anime ces deux figures de parents. Eugène Drewermann, encore lui, disait dans son livre « Je me dis quelquefois qu'une telle souffrance de l'amour portée à quelqu'un apparemment impossible à sauver est comme une preuve certaine de l'existence de Dieu. Car si on ne peut prier pour un tel être, on ne peut tenir dans une situation pareille. » Il présente ainsi cette supplique de la mère qui n'a aucune certitude quant à l'issue de la maladie de sa fille et qui n'a qu'une solution, aller prier un homme de Dieu. on frémit à la question « Vers qui Dieu a-t-il pu prier quand il n'a pu sauver son Fils ?» Lui, le Père, qui souffre avec nous. Mais heureusement, la jeune fille a été sauvée, tout comme le sourd-muet, tout comme les aveugles, les boiteux, les lépreux, toute cette imagerie du malheur de l'humanité qu'on retrouve dans les évangiles. Mais celui que Dieu a sauvé de son aveuglement, c'est sans doute en premier Jésus lui-même. En racontant ces histoires de guérison, les évangiles nous questionnent sur notre propre cécité, ces cécités qui nous empêchent de voir la dimension spirituelle des choses, nos propres impuretés qui nous empêchent de considérer l'autre comme un frère en humanité parce qu'il n'a pas le même code de vie, la même morale ou la même éducation. L'Évangile nous parle aussi de nos surdités quand nous sommes incapables d'entendre le cri sincère de celui qui veut être aidé. La confession de foi de celui qui ne croit pas comme nous, ou le chagrin de celui qui n'est pas reconnu digne à nos yeux de notre amour. L'Évangile nous parle aussi de nos claudications, comme les signes de nos hésitations à faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire, sans regarder l'origine, la religion, la pensée de celui qui est en face de nous, même si cela remet en cause nos habitudes et nos a priori. L'Évangile, c'est la cour des miracles, me direz-vous. Un peu, c'est vrai. Et cela, semble-t-il, n'a rien à voir avec ce petit enfant qui vient de recevoir le baptême, lui qui est beau et qui ressemble à un petit miracle tel qu'il est là, en pleine force, en pleine santé. Pourtant, par son baptême, ce petit enfant a reçu un amour et une bénédiction qui l'accompagneront toujours, même quand il oubliera de s'ouvrir aux autres, car sans doute ça lui arrivera, comme à nous tous. Même quand il ignorera les appels à faire ce qu'il doit faire pour son prochain. Car c'est à cette cour des miracles qui s'ouvre régulièrement dans nos cœurs que le salut s'adresse. C'est l'humanité tout entière qui est concernée par cette grâce, celle qui peine à faire la volonté de Dieu, celle qui n'est jamais parfaite. Car qui peut dire qu'il n'a jamais péché ? Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Il avait lui-même besoin d'être converti. C'est en espérant de tout cœur que leur fils s'ouvre au monde et aux autres que les parents de Léopold ont souhaité qu'il reçoive le baptême. Ils veulent lui offrir ce signe de leur foi pour qu'il ne soit jamais fermé comme le fut Jésus avant de se rendre compte de ce qu'il faisait. Pour que cette bénédiction reçue lui donne la confiance nécessaire pour s'ouvrir aux autres et pouvoir les considérer avec respect, empathie et peut-être amour, pour qu'il se laisse convertir lui-même à une autre humanité et soit lui aussi, à sa façon, porteur de salut. Alors que le petit Léopold, dans l'amour de Dieu, et sous les bons auspices de la Syro-Phénicienne, reçoivent cette parole aussi. Ouvre-toi, Ephphatha. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 400, j'ai soif de ta présence, les strophes 1, 2 et 3. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager ensemble quelques annonces. Et c'est le président de l'entraide protestante ici qui va nous partager ces annonces, Gilles Deveau.
Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup au pasteur Béatrice Cléromazière pour sa prédication. Et merci également à Alexandre Korovitch qui nous a accompagnés aujourd'hui à l'orgue. Alors, je n'aurai pas beaucoup d'annonces puisque nous sommes en période de vacances. Alors, j'en ai par contre une bien triste à vous faire. C'est celle du décès de M. Jean-Luc Christol qui est survenu vendredi dernier. Et il y aura un culte d'action de grâce ici même au temple, mercredi 6 à 10h. Et il sera présidé par Christine Axelrad qui est chargée de mission au foyer de l'âme. Donc la famille de M. Christol est une famille qui est très connue à l'oratoire. Hein, et puis donc sa sœur, Mme Marduel, est d'ailleurs encore parmi nous au cœur de l'oratoire en particulier. Dimanche prochain, le culte sera présidé par le pasteur Jean-Michel Perrault, qui a été pasteur ici à l'oratoire. Donc il était ici avant le pasteur Burki. Et donc il nous fait l'amitié de venir présider ce culte de dimanche, culte qui sera suivi par un verre de l'amitié, comme tous les deuxièmes dimanches du mois. Donc voilà pour les annonces de la semaine qui arrive. Si on veut aller rapidement un tout petit peu plus loin, je vous dis juste un petit mot de la conférence débat du mercredi 19 mars. Il y a déjà des affiches dans le temple qui annoncent cet événement. Donc c'est une conférence débat avec la projection d'un film sur les Cévennes huguenotes, une terre de refuge. Donc le mardi 19 mars à 20h au temple. Et le lendemain, le mercredi 20 mars à 19h, n'oubliez pas la réunion du groupe des jeunes. Et dernière petite chose, alors aujourd'hui, donc dans quelques minutes, le repas paroissial à la maison presbytérale en face. Donc si vous n'êtes pas inscrit, rassurez-vous, on pourra toujours vous accueillir, mais dans la mesure du possible, pensez bien à vous inscrire auprès du soit du secrétariat, soit de la librairie. Ça permet de préparer un petit peu les quantités. Et également, notre pasteur prendra une semaine de repos bien mérité, donc à partir de demain et jusque pendant une semaine, donc en fait la semaine prochaine. Voilà. Et je vous retrouve dans quelques secondes avec les diacres de l'entraide pour la collecte, qui est une collecte d'entraide ce dimanche. Merci et bon dimanche.
Je vous invite à la prière. Seigneur, bénis la famille de Léopold, bénis ce petit garçon, permets qu'ils soient tous unis autour de cet enfant et de tous les tout-petits de leur famille pour leur apporter la lumière de ton évangile. Permets que cette parole traverse leur famille comme une parole bienfaisante. Nous te remettons tous ceux qui sont baptisés dans cette église. Ne nous permets pas d'oublier ce chemin que nous faisons avec eux. Et rappelle-nous que nous avons sans cesse besoin d'être convertis avec eux. converti à ton amour inconditionnel, converti à ta patience, converti à ce que le Père qui aime ses enfants donne sans cesse, sans se lasser jamais. Nous te prions, Seigneur, aujourd'hui pour tous les parents qui sont dans l'angoisse de la maladie de leurs enfants. Permets qu'ils soient toujours épaulés, soutenus, et ne permets pas que nous minimisions cette angoisse. Donne-nous la possibilité d'être auprès d'eux, de les aider, de les consoler. Donne-nous, Seigneur, cette attention particulière et cette communion avec eux. Nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants dont nous avons la charge dans cette Église, charge d'éducation, charge de témoignage. Permets que nous soyons fidèles à ta parole pour leur apporter le meilleur de ce témoignage de croyants, sans jamais être dans le dogmatisme, simplement en marchant avec eux sur ce chemin que tu proposes. Aide-nous à discerner ce chemin avec eux en toute humilité. Donne-nous, Seigneur, des cœurs de croyants, la confiance nécessaire et le courage d'avancer dans tes voies. Ensemble, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, pendant que les cloches sont en train de disperser partout les paroles du Notre Père, je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Allez annoncer l'Évangile, allez avec l'humilité de ceux qui demandent de l'aide, allez aussi avec le courage que la foi implique. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur qui nous fait grâce et nous bénit, nous garde. Amen.